Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et l'on retrouve l'économiste Esther Duflo qui enseigne au MIT et au Collège de France, spécialiste de la pauvreté. Avez-vous un avis, Esther Duflo, sur la politique macroéconomique? Vous faites principalement de la micro, vous travaillez principalement sur la pauvreté, mais l'actualité économique en France suscite-t-elle chez vous des réflexions?
Je ne sais pas si l'actualité économique en France est dominée tellement par la macro. L'actualité économique en France, elle est dominée par la... Enfin, la manière dont je le vois est dominée par la réflexion et la mise en place des réformes du marché du travail. C'est vrai que quand j'étais étudiante en France, on pensait que c'était de la macro, mais aux États-Unis, pour nous, c'est de la micro, de réfléchir sur le marché du travail. Parce que c'est, si on a un certain type de procédure pour licencier quelqu'un, quel va être l'effet sur les licenciements, sur les recrutements, etc. C'est plutôt des questions de microéconomique. Alors après, est-ce que j'ai un avis là-dessus? Je pense que ce qui est à peu près clair, c'est que les réformes qui sont mises en place aujourd'hui, elles vont avoir un effet pro-cyclique. C'est-à-dire, tant que les choses iront bien, tant que si l'économie va bien, ce qui est prévu pour être le cas, pour l'instant on est dans un cycle de reprise, si l'économie va bien, et tant que l'économie va bien, rendre les coûts de licenciement plus transparents, etc., ça va permettre aux gens de recruter plus. En revanche, s'il y a un retournement, ça va leur permettre de licencier plus. Donc ce qui va faire, c'est la seule chose qu'on sait absolument, c'est-à-dire que ça va avoir un effet procyclique fort. Ça va accentuer les fluctuations dans les deux sens. Donc du point de vue de Macron en tant que, disons, que succès politique, ça va dépendre un petit peu de ce que fait le cycle économique. Ça va être un grand succès si le cycle est positif, et puis ça va commencer à être plus difficile à gérer si on revient en arrière. C'est vrai que quand il y a eu l'énorme récession suite à la crise de 2008, en France, on avait notre système où il y a beaucoup de protection. En Espagne, ils avaient déjà énormément libéralisé. En France, il y a eu une augmentation du chômage très faible. Et en Espagne, ils ont eu une énorme augmentation du chômage. Donc, d'avoir des coûts de licenciement plus faibles et surtout plus transparents, plus administratifs, c'est sûr que ça favorise les embauches dans les bons moments et ça favorise les licenciements dans les mauvais. Après, la question, c'est est-ce que ça va avoir un effet sur le niveau? Ça va accentuer le cycle. Et ça, je pense qu'on ne le sait pas. Je pense que ce n'est pas du tout si évident que ça que les coûts de licenciement ou les procédures de licenciement sont le facteur majeur de recrutement ou pas sur le niveau. Les expériences internationales, en fait, manquent. Celles qui ont lieu ne sont pas tellement conclusives dans un sens ou d'un autre. En définitive, ce qui détermine l'équilibre du marché du travail, ça va être plus, en tout cas sur le temps long, c'est plus l'adaptation des compétences des gens au type de travail qui existe. Le fait que les changements technologiques font que il y a certains travaux qui n'existent plus, qu'il n'y a pas les compétences qui vont en face des nouveaux et que il y a des travaux qui sont remplacés assez rapidement par les ordinateurs, l'intelligence artificielle, etc. Et qu'en échange, il faut inventer des nouveaux travaux qui ont à voir avec, qui mettent en valeur nos compétences d'humains. S'occuper des petits-enfants, des personnes âgées, etc., ou la culture. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait commencer à réfléchir en profondeur, c'est-à-dire sur les prochaines années, sur les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, qu'est-ce qu'on fait pour préparer les jeunes qui aujourd'hui ne se sont pas encore engagés dans une voie particulière ou pour aider à la formation des moins jeunes qui sont déjà engagés dans une voie professionnelle particulière mais qui n'est pas forcément très prometteuse, pour les remettre en face de travaux où ils contribuent à la société, ce que je pense que tout le monde a profondément envie de faire d'une manière ou d'une autre, et ils sont employés.
Lorsque vous entendez, Esther Duflo, les politique français parler économie, je pense à la comparaison avec les États-Unis que vous pouvez faire parce que vous enseignez au MIT et aussi parce que vous aviez été consulté par l'administration Obama. Est-ce que cette expérience a suscité en vous des réflexions? Est-ce que l'Obamacare, par exemple, qui avait été une réforme majeure, rétrospectivement, comment vous la jugez, cette réforme?
Quand on vit aux États-Unis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et qu'on entend les... Je ne parle même pas du président, mais qu'on entend les représentants républicains parler de l'effet possible d'une réforme fiscale sur la croissance, et on a envie de se tirer une balle dans la tête. Enfin, le niveau de pensée magique... sur la pensée économique aux États-Unis aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est-à-dire, il y a une en ce moment, ils discutent des impôts, donc cette idée que de couper les impôts
ils créeraient trois tranches.
Ils vont créer trois tranches, mais surtout essentiellement, ils éliminent l'impôt sur l'héritage. D'éliminer l'impôt sur l'héritage, ça va bénéficier au 0,2% top, aux plus riches de la population. Et de se dire que ça va faire, ça va contribuer à augmenter la croissance. Alors après, il y a eu aussi une coupe des impôts. Pour les entreprises, il y a un raisonnement économique à la gobbledygook, absolument n'importe quoi.
Gobbledygook, c'est un signe qui veut dire abracadabra.
Oui, c'est ça. Je sors de mon chapeau. Ça va augmenter la croissance de 3%. Mais... Et du coup, ça va en fait, tout le monde va être plus riche. Et ils vont tellement être tellement plus riches que ça va faire augmenter les impôts. Ce qui fait que, bien qu'on fasse une énorme coupe d'impôts, il n'y aura pas d'augmentation des déficits.
Mais est-ce que votre discipline, Esther Duflo, n'est pas polluée par toute une série de pensées magiques? On a beaucoup parlé de la courbe de l'affaire, celle qui reliait les évolution des impôts avec la performance d'une économie. Cette courbe, elle a été inventée sur une nappe en papier. Et on parle beaucoup de la théorie du ruissellement. En fait, si on cherche bien, on n'a absolument aucune preuve de la confirmation ou de l'infirmation de cette théorie. En tant qu'économiste, est-ce que vous n'êtes pas parfois agacé par ce discours sur la façon dont les choses devraient fonctionner en économie?
Non, absolument. Tout le monde aux États-Unis a fait de l'économie à l'université, a pris au moins un cours d'économie. Et du coup, tout le monde a appris le béaba dans un monde parfait, sous certaines hypothèses. Et donc, tout le monde raisonne, est capable de faire un raisonnement économiste simpliste. Sauf qu'il se trouve que la plupart des raisonnements économistes simplistes sont faux, ce que les économistes savent. Mais personne n'est allé jusque-là. En fait, il y a un énorme écart entre le raisonnement pseudo-économique que les hommes politiques, surtout les hommes politiques, un petit peu les femmes politiques, mais beaucoup moins...
Pourquoi faire une distinction entre les hommes et les femmes politiques?
Parce que j'ai dit hommes politiques, puis après, par réflexe, je me dis...
Parce que vous pensiez à Hillary Clinton, ou c'était...
Mais il se trouve que c'est quand même surtout les hommes politiques qui parlent de cette possibilité qu'en baissant les impôts, ça fasse augmenter la croissance. J'ai jamais entendu... Je peux pas citer une femme qui a jamais dit ça. Enfin bref, c'est une parenthèse.
Mais si vous distinguez les hommes et les femmes en matière d'économie, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais on murmure que vous êtes nobelisable, Esther Duflo. Et si l'on prend la liste des Nobel d'économie, je disais qu'il n'y avait pas de femmes. Alors apparemment, il y en a eu une en 2009. Mais alors, c'est vraiment une exception. Comment vous expliquez ça alors qu'en fac d'éco, il y a beaucoup de femmes?
Il y en a eu une en 2009, c'est Elina Rostrom. Elle a eu le prix Nobel d'économie, mais en fait, elle venait des sciences politiques. Donc, on peut dire oui ou non. Je pense que c'est une question de génération. En fait, pour avoir le prix Nobel en économie, il faut être âgé. Avec l'exception importante de Tirole, qui était très, 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 très jeune pour quelqu'un qui a eu le prix Nobel. Mais sinon, en général, il faut quand même être âgé. Parce que le prix Nobel en économie récompense moins une invention très importante qu'une influence sur le domaine Et pour savoir que les travaux de quelqu'un ont eu une influence sur le domaine, bah, faut laisser un petit peu du temps au temps. Je trouve que c'est assez... En fait, je trouve que c'est assez normal. C'est, étant donné la manière dont le prix a évolué, c'est vraiment un prix de toute fin de carrière. Et si on regarde les générations de gens qui aujourd'hui ont 70, 80 ans, bah, il y a surtout des hommes. Donc je pense que ça va s'améliorer dans les générations à venir, jusqu'à relativement... Il y a un autre prix en économie qui s'appelle la médaille Clark, qui est un petit peu l'équivalent de la médaille Field pour l'économie, qui est donnée aux économistes de moins de 40 ans. Et la première femme qui a eu la médaille Clark, c'était, je crois, en 2005, Suzanne Etty. Et depuis, il y en a eu deux autres.
Lorsque vous comparez le système universitaire français et le système universitaire américain, tout d'abord, du point de vue des femmes, on a beaucoup parlé de machisme et de manière de favoriser l'égalité entre les sexes en France. Une comparaison sur les deux systèmes, Esther Duflo.
Je ne sais pas si je connais assez bien, parce que je pense que c'est à la fois, c'est pas seulement le système américain et le système français, mais c'est aussi assez, ça dépend, je pense que le niveau de machisme dépend des domaines. Et le nombre de femmes, etc., dépend des domaines. Il y a beaucoup plus de femmes en sciences sociales, en humanité, etc., qu'en mathématiques et dans les sciences, qui est un gros problème qui existe à la fois en France et aux États-Unis. Qui vient, je pense, pas tellement d'un machisme à l'intérieur de la discipline, mais plutôt de la manière dont la sélection est faite dans le système scolaire, qui convient moins bien, pour une raison ou pour une autre, qui convient moins bien aux filles qu'aux garçons. Après, au sein de l'économie, qui est la discipline que je connais, il y a en fait la culture aux États-Unis, et je pense que c'est plus vrai aux États-Unis qu'en France, pour ce que j'ai pu voir de la France, la culture aux États-Unis est très agressive. Et elle privilégie la pugnacité un petit peu aux dépens de la substance. Et ça, c'est quelque chose qui convient pas très bien aux femmes qui sont plutôt pas... dans l'agressivité et dans la pugnacité, en partie parce que c'est pas ce qu'on leur a appris à faire depuis qu'elles étaient des petites filles et qu'on leur a appris qu'il fallait être gentil. Et donc, l'ensemble de la culture parmi les économistes aux États-Unis n'est pas vraiment favorable aux femmes. Et après, même à l'intérieur de l'économie, ça dépend des domaines. Par exemple, en économie de développement, il y a beaucoup de femmes. Et on est plutôt sympathique. En macro, il y a presque pas de femmes. Et c'est un domaine qui est le plus agressif et qui est le plus... qui est le plus dominé, disons, par une certaine forme de machisme.
Reprenons vos études en matière donc d'économie du développement. Vous avez tenté également d'analyser, Esther Duflo, le rôle des incitations à l'entrepreneuriat en matière d'économie, notamment évaluer la question de la microfinance, de ces prêts qui peuvent être accordés à une petite échelle. Et vous avez abouti à des résultats qui sont plutôt contre-intuitifs. Expliquez-nous lesquels.
Je ne sais pas s'ils sont contre-intuitifs, mais ils sont contre, l'idéologie qui existait à l'époque. Donc le microcrédit, c'est quelque chose qui a eu un succès énorme. Donc Mohamed Younous, qui a contribué à le diffuser, a eu le prix Nobel pour ça. Il y a 200 millions de clients de microcrédit, etc. Et la raison pour laquelle ça a eu un succès énorme auprès non seulement des clients, mais des...
De l'opinion publique,
exactement, des décideurs, etc. C'est un repas gratuit. C'est comme un billet de banque sur les trottoirs. Parce que...
Un repas gratuit, c'est un terme d'économiste.
Un terme d'économiste. En anglais, on dit free lunch. C'est-à-dire, on peut avoir quelque chose sans avoir besoin de payer pour ça.
Et les économistes ne croient pas dans les repas gratuits.
En fait, les économistes ont cru au microcrédit. Parce que là, on croit au repas gratuit... quand il y a une invention qui permet d'ouvrir une possibilité qui n'était pas là avant. Et l'idée, c'est que si avant, les banques n'étaient pas capables de prêter aux plus pauvres, et que maintenant, je trouve une technologie pour le faire, en utilisant le fait que les gens se connaissent bien entre eux, et donc sont capables de se surveiller les uns les autres, et se choisir les uns les autres, et que maintenant, ça devient possible de prêter aux plus pauvres. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Si les pauvres remboursent, je n'ai pas perdu d'argent. Je peux même en gagner si je mets un petit taux d'intérêt, un taux d'intérêt suffisamment élevé. Et les pauvres sont capables d'emprunter. Et donc, l'idée de Younous, c'était les pauvres, avec ces emprunts, ils vont lancer des entreprises. Bon, la première partie, il avait raison. C'est-à-dire, c'est possible de prêter aux pauvres. Et ça, c'est une invention qui est une invention importante. Mais la deuxième partie, il avait tort. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont un emprunt, une fois que les gens prennent un emprunt, ce qu'ils font avec, dans l'immense majorité des cas, c'est qu'ils s'achètent quelque chose dont ils ont besoin, dont ils ont envie, mais qui ne commencent pas un business. Par exemple, un frigidaire, un vélo, etc. Et après, bah, ils vont travailler un petit peu plus dans le travail qu'ils ont déjà pour rembourser la dette. Et c'est vraiment une minorité très extrême de gens qui prennent l'argent soit pour commencer une nouvelle activité, soit pour étendre l'activité qu'ils ont déjà. Et du coup, le résultat, c'est que le microcrédit, c'est un petit peu comme une carte de crédit, en fait. Une carte de crédit pour les pauvres. Et c'est très bien, les cartes de crédit. Ça permet aux gens de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement, mais ça ne les sort pas de la pauvreté. Et ça, c'est des résultats que j'ai pu trouver avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, mais qui ont été répétés dans plusieurs contextes, qu'on aille de l'Éthiopie à l'Inde, en Bosnie-Herzégovine, même en France. Les effets du microcrédit sont zéro sur la sortie de la pauvreté, l'augmentation de la consommation, même le lissage de la consommation, etc. Il n'y a simplement pas d'effet.
Alors, comment peut-on inciter les gens à devenir entrepreneurs ? Faut-il d'ailleurs inciter les gens à devenir entrepreneurs pour les faire sortir de la pauvreté, Esther Duflo ?
Je pense qu'il ne faut pas inciter les gens à devenir entrepreneurs pour les sortir de la pauvreté. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Ça vient un petit peu d'une espèce de mystique de l'entrepreneuriat en tant que tel. Or, il se trouve que la grande majorité des gens, qu'on soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, ils n'ont pas envie de devenir entrepreneur. Et il y a des raisons. Être entrepreneur, c'est extrêmement risqué, ça demande de travailler beaucoup. D'être auto-entrepreneur, ça veut dire de travailler avec un tout petit peu de capital, très peu. Pourquoi les gens ne travailleraient pas dans des entreprises où ils ont des collègues avec qui ils peuvent travailler, ils ont des heures de bureau, ils ont une sécurité de l'emploi, etc. Les gens dans les pays pauvres, ils ont les mêmes rêves que nous. Et il y a des gens. C'est vraiment une question de tempérament, c'est-à-dire il y a des gens qui vivent pour la prise de risque, etc., qui l'apprécient. Bah, très bien, ces gens-là, ils doivent être entrepreneurs. Je pense qu'il y en a à peu près le même nombre dans les pays pauvres et dans les pays riches.
Il se trouve qu'en France, il y a tout un discours qui est porté sur les auto-entrepreneurs. Le gouvernement a multiplié par deux le plafond pour l'exercice des auto-entrepreneurs. Et donc, j'imagine qu'il souhaite en augmenter le nombre. Esther Duflo, est-ce que ça signifie là aussi que ce discours, il n'est pas nécessairement le plus propice non seulement à l'efficacité de l'économie, mais aussi au bien-être des individus.
C'est la même chose, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas de magie derrière. Si on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser et rendre plus facile l'accès à l'entrepreneuriat pour les gens qui ont envie de le faire, très bien, pourquoi pas. Si c'est plus facile d'obtenir un crédit, s'il y a moins de paperasserie pour faire les choses bien et dans les règles, il ne faudrait pas décourager les gens qui ont envie d'être entrepreneurs de devenir entrepreneurs. Mais si on se dit en faisant ça, je vais faire une révolution majeur il y aura beaucoup moins de chômage, etc., parce que tout le monde sera entrepreneur à la place, je pense qu'on se met les doigts dans l'œil, c'est clair.
Vous avez étudié là aussi pour permettre aux individus de sortir de la pauvreté, ou en tout cas en économie de la pauvreté, des choses extrêmement différentes. Vous avez étudié notamment les infrastructures, l'eau potable, les toilettes, qui sont un véritable enjeu mondial, y compris d'ailleurs, j'ai trouvé un article que vous avez co-signé, Esther Duflo, sur la cuisson des aliments et la manière dont celui-ci polluait. Pourquoi, par exemple, la cuisson des aliments ? En quoi est-ce quelque chose qui peut intéresser aussi une économiste, Esther Duflo ?
Il faut savoir, les économistes sont un petit peu impérialistes, c'est-à-dire n'importe quel sujet auquel s'intéresse un économiste, ça devient de l'économie. Mais en l'occurrence, la question de la cuisson des aliments est essentielle parce qu'une très grande partie des pauvres dans le monde cuisent leurs aliments avec des petits fours qu'ils fabriquent dans leur maison et dans lesquels ils font brûler soit du charbon, soit des feuilles, soit des bouts de bois. Et ça génère un niveau de pollution à l'intérieur de leur maison qui est absolument énorme. On parle aujourd'hui beaucoup de la pollution à Delhi, et on a bien raison, parce que le Premier ministre de Delhi a parlé des faits de chambre à gaz pour décrire, l'air à Delhi, sans quoi il exagérait un petit peu. Mais la pollution dans les rues à Delhi, c'est absolument rien en comparaison du niveau de pollution qu'il y a dans votre maison deux fois par jour ou trois fois par jour quand vous faites à manger. Donc la question auquel beaucoup de gens travaillent, c'est comment on fait pour éviter ce problème. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est faire passer les gens de ces petits fours traditionnels à bois à des systèmes un peu comme des camping-gaz, ou même à des systèmes solaires, etc. Où on pourrait essayer, même s'il continue avec ce genre de four traditionnel, de rajouter une cheminée. Et il y a eu beaucoup de travaux. À partir de ce constat, ça paraît évident que rajouter une cheminée, ça va être bien, puisque ils peuvent continuer à faire leur pratique traditionnelle, à garder leur pratique traditionnelle, mais au moins la pollution s'en ira. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire avec une ONG, c'est d'évaluer l'effet de ces fours traditionnels. Et là, la raison pour laquelle c'est une équipe d'économistes qui a fait ça, c'est que nous, ça nous paraissait évident que ça allait vraiment nettoyer l'air chez eux et que du coup, on pourrait s'en servir pour regarder les effets économiques d'être en meilleure santé. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé. Parce qu'en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que ça ne marche pas du tout. Ça ne réduit pas du tout la pollution. Et la raison pour laquelle ça ne réduit pas la pollution, ce n'est pas tellement que les fours eux-mêmes ne marchent pas, c'est qu'ils ont besoin de réparation de temps en temps, etc. Et que les gens, en fait, ne le font pas. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ils abandonnent. Et donc, le problème, qui n'est pas un problème, c'est un problème d'économie, puisque c'est un problème de comportement, c'est un problème de choix, c'est que dans tous les choix, dans toutes les choses que les gens ont à faire, la pollution intérieure, ça n'est absolument pas quelque chose qui les préoccupe. Et là, on en revenait aux questions d'hommes versus de femmes. Là, peut-être qu'il y a vraiment... ça a quelque chose à voir avec la position de pouvoir relatif des femmes et des hommes. Puisque les hommes, en fait, ils sont pas là quand les femmes font la cuisine. Donc, mais c'est en même temps eux qui font les décisions financières. C'est eux qui vont réparer le four s'il est cassé. Et eux, ils sont pas là quand la cuisine est faite. Puis pour eux, ça les concerne pas. C'est pas vraiment un sujet. C'est les femmes et les enfants qui sont là pendant que la cuisine est faite. Donc, c'est plus un sujet. Ça peut être une raison. Mais en tout état de cause, le ménage dans son ensemble, le four amélioré, ça ne l'intéresse pas. Et donc le four n'est pas maintenu, très rapidement ils l'abandonnent et ils reviennent à leur manière de cuire initiale. Donc ça veut dire qu'il faut repartir, ça veut pas dire que c'est pas un problème. Ça reste un problème, mais il faut se demander comment, soit on arrive à changer les attitudes, ce qui est un petit peu difficile toujours je pense, soit on arrive à développer un produit qui, étant donné les attitudes telles qu'elles sont, soit plus séduisant. Donc
justement, une dernière question à ce sujet, Esther Duflo, parce que vous avez étudié toute une série de variables pour lutter contre la pauvreté. Mais si on prend l'exemple de l'Inde, mais ça vaut pour toute une série de pays, n'y a-t-il pas aussi des obstacles sociaux, sociétaux à cette lutte contre la pauvreté?
La réponse est à peu près évidemment oui. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On va dire, il y a des obstacles sociaux, donc je ne ferai rien. Donc les obstacles, on les prend les uns après les autres. Dans la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une chose qui va permettre de tout résoudre les problèmes. C'était un petit peu l'illusion du microcrédit. C'est de dire, il suffit de faire ça. Si je mets le microcrédit en place, tout va suivre. Mais cette illusion du microcrédit, d'autres gens ont d'autres illusions. Parfois, c'est l'éducation qui va résoudre tous les problèmes du monde. Parfois, c'est de vacciner les enfants.
Question des castes, par exemple, en Inde, qui freine la mobilité sociale.
La question des castes, c'est un problème. C'est un problème. Mais même la question des castes, on n'est pas obligé de la prendre comme une donnée. Okay. On peut se demander, par exemple, j'ai un étudiant qui travaille, qui a mis en place des matchs de cricket entre les castes pauvres et les castes élevées et les castes pas élevées, pour voir si jouer au cricket, soit avec des gens d'une autre caste dans votre équipe, soit avec des gens contre, est-ce que ça améliore les relations entre les castes dans la suite, ou est-ce que ça les empire? Et ce qu'ils trouvent, c'est que quand les gens sont ensemble, mélangés par caste, et jouent au cricket ensemble pendant tout un tournoi de cricket, ça améliore énormément leur disposition à être, ils veulent être amis avec des gens de l'autre caste, ils veulent bien échanger commercialement avec les gens d'autres castes, ils les choisissent pour faire partie de leur équipe, etc. Par contre, quand ils sont en face, ça a tendance à avoir l'effet inverse, c'est-à-dire le rapport de caste adversarial est encore plus exacerbé. Donc ce genre de projet, ça rentre dans le détail en disant on ne va pas prendre la situation de caste comme une donnée, on va essayer, même ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Merci Esther Duflo de nous avoir exposé certains de vos travaux sur la pauvreté.